Salut, c'est Fred Testo, bienvenue dans le débrief réalisé avec Santé publique France où on vous dit tout sur les dangers des paris sportifs. Avec nous Mohamed Bouafsi, journaliste, et le professeur Laurent Carilla, addictologue. On démarre avec un témoignage particulièrement révélateur des problèmes d'addiction, celui de Paul.
J'ai débuté les paris sportifs à mes 18 ans. Très vite, j'ai eu un gros gain. Je pariais non-stop. Je l'ai caché à mon entourage. Ça a duré plus de 9 ans et je me suis retrouvé dans une situation de surendettement.
Mohamed Bouafsi, votre analyse ?
Quand il commence à jouer, Paul, il est très jeune. Qui dit jeunesse, dit vulnérabilité. Et après ça, on tombe dans le jeu compulsif. L'engrenage, on croit qu'on peut gagner facilement et rapidement de l'argent.
Laurent Carilla, comment on tombe dans le jeu problématique ?
Il y a d'abord ce gain avec des émotions difficiles à gérer. Il y a d'autres étapes qui s'ajoutent, la perte, l'espoir de se refaire. Et l'étape d'après, c'est le désespoir avec ses conséquences. Tous les joueurs, même modérés, peuvent basculer dans le jeu problématique.
Parier, c'est pas rien. Si vous avez des questions, rendez-vous sur le site joueurinfoservice.fr.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Extra pour analyser et commencer à débriefer ces demi-finales de conférence. Je suis avec Chris Singleton et Rémi Reverchon. Salut les gars.
Hello Rémi, hello sir.
Salut Nico, je vois Singleton tout le temps en ce moment, c'est trop et tu m'infliges le podcast en plus, ça commence fort cette semaine.
Ouais.
Ah, ça, tu seras pas dessus vendredi, ce sera Xavier, mais il y aura toujours Chris par contre.
Ah ouf.
Ouais, on a fait Xavier, on a voulu t'accorder un petit,
merci.
Un petit break.
Vous êtes bien aimable.
Non, mais il faut partager un peu, Chris.
Alors, Chris, justement, la dernière fois qu'on s'est vu, les Lakers étaient encore en course. Depuis,
ils sont
éliminés. On va commencer par ces Nuggets face aux Timberwolves, Minnesota qui a fait un peu le gros coup en gagnant dès le match 1. J'ai une question pour toi, toute simple, Chris. Est-ce que tu penses que Denver est vraiment en danger dans cette demi-finale ?
Absolument. Quand on m'a demandé mon pronostic pour cette série, j'ai pris Minnesota parce que je pense que Minnesota a les atouts un peu pour dérégler cette équipe de Denver. Jokic a en face de lui, même s'il va mettre ses points, il va faire ses stats, il a quand même trois monstres en face de lui, Nasri, Rudy et Cat Towns, qui vont lui faire en sorte que sa vie ne va pas être facile. Et ce qui m'a convaincu aussi, c'était la faiblesse contre les Lakers, justement. Tous les matchs contre les Lakers, ils étaient à moins 15, moins 20, moins 14. Donc, on peut dérégler cette équipe de Denver. Et tout simplement, Edwards, au niveau de jeu qu'il a actuellement, c'est un monstre. Cette équipe est bien coachée, bien organisée, défensivement, probablement une des meilleures équipes qui reste. Donc, je vois Minnesota vraiment, mais Denver en danger.
Écoute, moi, Nico, ce que je sais, c'est que je sais plus rien, quoi, dans cette série. J'aurais été prêt à parier ma maison que je n'ai pas sur Denver avant le début de la série, mais j'ai été, comme tout le monde, sur le cul de ce match 1, du sérieux de cette équipe de Minnesota, du niveau de jeu qu'elle est capable d'apporter. Bien sûr qu'ils sont en danger, les Nuggets, bien sûr. Là, on peut douter de tout désormais. Là, Est-ce que Minnesota n'est pas la meilleure équipe restante, même de toutes celles qui sont les 8 dernières en saison ? J'en sais rien. Écoute, on va bien voir. Je donne quand même beaucoup de crédit et de respect à cette équipe de Denver. Je reste persuadé que même à 1-0 Minnesota, ils sont favoris dans cette série. Mais oui, aujourd'hui, j'ai entrouvert la porte à l'idée que Minnesota puisse passer l'étape Denver, ce qui n'était pas le cas il y a 48 heures.
Ouais, tant qu'ils seront les champions, Denver, il faut les respecter tels. Mais Rémi a eu un aperçu, parce que moi, je le regardais de loin, mais le mois d'août à Dubaï.
À Abu Dhabi, c'est en octobre.
On a vu cette équipe de Minnesota très sérieux, focalisée, pendant que l'équipe en face Dallas rigolait. Voilà, ils ont pris ça comme ça. Mais je pense qu'ils étaient déjà en mission. Ils croient en eux et puis voilà, ils sont en train de montrer que bon, le travail paye.
Il y a un facteur que j'ai noté, enfin moi qui m'avait interpellé, c'est que par exemple face aux Lakers, je vous donne des chiffres, les rebonds offensifs de Denver, 15 dans le premier match, 9, 14, 9 et 9. Dans le match 1, ils prennent que 3 rebonds offensifs, les Nuggets.
Sûr.
Et c'est une grande force pour eux, c'est tous ces ballons, enfin tous ces points sur seconde chance qu'ils n'ont pas justement face à Minnesota parce que, bah, tu l'as dit, Chris, avec Nasri, Towns, Rudy Gobert, bien sûr, c'est une équipe qui laisse peu de rebonds finalement à l'adversaire et ça, c'est des munitions en moins pour les Nuggets.
Ils ont, ces Wolves, un truc pour eux que personne d'autre, je crois, n'a dans la ligue, dans les 8 équipes qui restent, c'est l'intensité physique. Alors bien sûr, c'est personnifié par ces trois mecs-là, l'espèce de big three dans la raquette, là, Reed, Gobert, Towns, Mais au-delà de ça, c'est un phénomène défensif général. Ils ont, je pense sincèrement, l'un des tout meilleurs défenseurs de NBA qui est Jaden McDaniels dans l'équipe. Au-delà de Rudy, hein, qui est pour moi le meilleur défenseur de NBA.
Non, mais sur, à l'aile, en tout cas, sur, la, sur
oui,
les
extérieurs. Qui vient dépanner au rebond aussi, qui vient bloquer les box-out,
etc. Il y a Alexander Walker aussi,
qui est excellent dans ce domaine-là. Ils ont vraiment une intensité défensive. On en a parlé toute l'année, on s'en rendait compte. C'est l'une des meilleures défenses de NBA en termes de rating défensif. Les gens qui sont intéressés un peu par les stats et les stats avancées aussi s'en rendent compte. Mais on avait tous cette question de la bascule en play-off, du manque d'expérience en play-off. Ils n'ont eu qu'un passage l'année dernière, sorti par Denver. C'était un peu court. Et ben, on se rend compte qu'en fait, l'adaptation au niveau, elle est immédiate pour eux. Écoute, je sais pas, l'avenir est brillant pour cette équipe-là s'ils réussissent à maintenir ce groupe en vie, ce qui a l'air d'être envisageable. Mais le présent l'est peut-être aussi. Hein. Moi, le match 2, là, ultra excitant ce lundi soir. Hein. On va voir ça. Hein.
Ouais, ça sera cette nuit. D'ailleurs, on rappelle, hein, tous les matchs de play-off restants seront sur SBN. Yes. Tous les matchs de tous les demi-finales, toutes les finales NBA, les finales de conférence, bref. Et du coup, match 2 cette nuit, j'ai plus l'heure en tête, c'était 3 ou 4 heures.
4 heures.
C'est 4 heures. Et Nick Spacers,
pour toi,
match 1.
Je connais les heures. Ouais,
Nick Spacers, qui sera le match 1 à 1h30 cette nuit. Et on va commencer avec cette série. Moi, je voulais commencer par eux parce que je trouve que c'est une série qui est diamétralement opposée, enfin entre deux équipes diamétralement opposées. Et est-ce qu'on peut résumer cette série à un duel entre, alors c'est un peu grossier de dire ça, mais entre la défense d'Enix et l'attaque d'Indiana qui va réussir à dicter son rythme, son tempo, qui va imposer son style de jeu dans cette série?
Si c'est le cas, ça sera les Knicks les favoris. On sait parfaitement bien la faiblesse ou la force d'Indiana, justement, c'est en attaque. Ils sont capables de marquer beaucoup de points. Mais pour moi, c'est une des équipes le plus insaisissables. Les Pacers, on ne sait jamais ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont être à droit ou pas? Il dépend énormément sur le shoot à 3 points. Il dépend sur le rythme. Haliburton, voilà, qui pousse le ballon. McCullough, qui est une surprise, qui pousse le ballon. Donc, ils ont un tempo qui est très élevé. Les Knicks, plutôt, une équipe demi-terrain avec Brunson qui gère, qui lâche ou il lâche pas. Mais pour moi, les forces sont chez les Knicks plutôt, beaucoup plus agressifs défensivement, beaucoup plus présents au rebond. Donc, l'avantage, il est là. Il n'est pas énorme, mais les Pacers dépendent beaucoup trop pour moi sur les points marqués.
Ouais, c'est assez logique en tout cas de raisonner comme ça avant la série, c'est-à-dire que la meilleure équipe de basket aujourd'hui, c'est New York. Indiana est porté donc par son attaque. Rick Carlisle, qui est un grand coach, s'est adapté aux joueurs qu'il a sous la main et il le fait très bien. Mais je crois en ce projet-là pour l'avenir, mais j'ai quand même l'impression que sur cette année, ok, tu as fait une finale du in-season tournament, il y a eu quand même des passages compliqués dans l'année pour Indiana aussi, des moments où on doutait un petit peu, les matchs à 150 points en permanence, etc. J'espère qu'on ne se laisse pas un peu griser parce qu'ils ont passé un tour de play-off. Et un tour particulier face à Milwaukee sans Giannis, sans Lillard la plupart du temps, etc. Donc là, c'est très bien, ils sont dans les 8 meilleures équipes de NBA aujourd'hui. Mais est-ce qu'on ne se laisse pas emballer par ce résultat qui est peut-être un peu faussé, je veux dire, par le premier tour qui était un petit peu faussé. New York, en revanche, c'est un super projet. Il y a une vraie équipe de basket, il y a une identité. Alors, c'est pas du Hurrah Basket, c'est pas pour les gens qui découvrent le basket la chose la plus fun à regarder, mais quand t'aimes le basket, qu'est-ce que c'est cool de voir cette équipe en mode Memphis de l'époque, grit and grind un petit peu là, à se battre sur tous les ballons. Tu me parlais de rebond tout à l'heure offensif pour Denver. Eux, ils en prennent plein. Mitchell Robinson qui va en chercher dans tous les sens.
Tout le monde en prend dans cette équipe.
Ouais, Josh Hart, qui est incroyable.
Et tout le monde y va.
Donc, je pense que la meilleure équipe aujourd'hui de basket, c'est New York. Sincèrement, je serais très surpris si dans 15 jours, les Knicks ne sont pas en finale de conférence. Ouais.
Mais arrive à ce point-là, qu'est-ce que ce sera bien d'être préparé par Thibodeau? Ouais. C'est vraiment, pour moi, c'est un des grands coachs de NBA actuellement, qui a montré en plus son caractère aussi, parce qu'il a pris quelques décisions cette année qui n'étaient pas très populaires. On se demandait, mais qu'est-ce qu'il fait? Il laisse Quickly partir.
Oui, et puis il ne va pas faire jouer certains mecs.
Il ne va pas faire jouer certains mecs au bout, sans explication, parce que lui, pour lui, sa méthode, c'est comme ça. Vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas. Mais par contre, ces équipes, ils sont toujours bien préparés. Ils sont toujours bien organisés. Donc, et ces joueurs, j'ai l'impression, sont prêts à traverser le mur.
Il y a juste une chance peut-être pour Indiana dans cette série, c'est d'être peut-être un peu plus frais. Il y a une rotation très courte à New York. Alors, évidemment, ça ne sera pas facile, mais si Indiana arrive à courir beaucoup, à jouer beaucoup en transition, ça peut aussi fatiguer ses Knicks. qui sort d'une série en 7 contre Philadelphie qui a été très difficile. Ça a été quand même
un peu... En 6, pardon.
Mais ça, quand même, ça a été très dur dans l'intensité. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent reproduire ça sur à minima 5-6 matchs?
C'est le point d'interrogation pour New York. T'as raison, c'est la fraîcheur physique et c'est cette rotation à 6,5 même. Parce que sur les derniers matchs, t'as le 5, avec des Josh Hart qui sort pas une seconde, qui joue vraiment littéralement 48 minutes à chaque match. T'as Mitchell Robinson qui vient en backup d'Artenstein ou vice-versa, et un peu de Deuce McBride par-ci par-là.
McBride,
et
ouais.
Terminé, quoi. Il fait même pas jouer Alec Burks, Bogdanovic est out désormais. Donc oui, t'as raison, ça c'est l'incertitude parce qu'ils sont très courts. C'est-à-dire qu'au moins de pépins physiques aujourd'hui, ça devient le bordel à New York là quand même pour trouver des minutes à quelqu'un sur le banc. C'est la chance d'Indiana, t'as raison. L'autre chance d'Indiana, c'est juste d'emballer cette série, de prendre l'un des deux premiers matchs à New York, de foutre le feu sur un match comme ils savent le faire. J'aimerais bien, pour Indiana, voir Haliburton un petit peu plus présent au scoring qu'il a été dernièrement. On l'avait beaucoup vu dans la saison, alors on sait que ce n'est pas son jeu premier, ce n'est pas un mec qui tournera à 30 points de moyenne sur une série, mais j'aimerais bien le voir plus à 20, 18, 20, 22 points qu'à 13, 14 points, 15 points, comme on l'a vu dernièrement. Je pense que ça pourrait aider aussi les Pacers.
Oui, depuis le in-season tournament, il a descendu un peu. On était un peu déçus parce qu'on voyait vraiment monter en puissance. Et tout d'un coup, il y a eu cet arrêt. Mais je pense, pour moi, le jour clé chez Indiana, c'est Miles Turner. Justement, il va avoir, comme on dit, les rotations de New York sont courtes. Artenstein a des tendances à faire des fautes. Donc, tu enlèves Artenstein de là, dans un bagarre dans la raquette, tu t'affaiblis énormément. Et Miles Turner, on sait, avec la saison qu'il est en train de faire, capable de mettre beaucoup de points, mais surtout à un contreur. Très physique au rebond, il risque de poser énormément de problèmes pour les Knicks. Qu'en dehors de Artenstein, c'est vrai qu'il y a Robinson qui revient un peu, mais je pense qu'il est au niveau cardio, il est encore assez loin, mais ça va être une belle bagarre.
Tiens, Christophe, juste rapidement, Nico, t'en penses quoi? Est-ce que tu crois que Brunson et Haliburton, ils vont être en face-à-face en match-up?
Non.
Non,
ils vont s'éviter, hein.
Ils vont s'éviter.
Ouais, de toute façon, t'as Josh Hart et DiVincenzo.
Ça semble logique. Je me demandais si, tu sais, c'est le truc des grands joueurs aussi. Moi, j'entends, c'est que ce soit pas le plan de départ. Mais quand t'as un grand joueur, que t'es en playoff au moment le plus fort de ta saison, tu sais, ces mecs-là, ils sont à l'ego tous et ils aiment les duels. Et je me dis, dans la tête d'un mec comme Brunson, qui vient de prouver plein de trucs, est-ce qu'il y a pas un moment, si la série, elle est un peu sur la bascule, si un match est un peu sur la bascule, est-ce qu'il y a pas un moment où il va dire sur un temps mort, les gars, là, si Haliburton il vient de mettre deux shoots, deux passes d'aise, machin, je m'en fais mon affaire. Tu vois, je serais curieux de voir
old school, c'était comme ça. Ouais. Jordan disait toujours, moi je vais prendre le mec là. Kobe il disait aussi, laisse-moi le prendre, parce que moi je vais régler son cas. Le problème avec ça, si t'es un coach, c'est de dire, quand tu vois tous les efforts qu'il fait Brunson,
on lui en demande tellement en attaque.
On lui en demande tellement, il est tellement physique. Si tu lui demandes tout de suite après,
tu le risques de faute.
Tu vas prendre Haliburton tout le terrain ou quoi que ce soit pour le ralentir. C'est là le problème. Et je crois qu'Haliburton, on ne va pas risquer de le mettre sur Brunson à cause des fautes. Parce que voilà, personne ne peut contenir. Il faut aller à deux, il faut avoir des stratégies défensives assez élaborées contre ces deux joueurs. Haliburton, il faut prendre plus tôt, parce qu'on sait que dès qu'il traverse le milieu, il est en mode attaque. Brunson va plutôt chercher à aller dans la peinture pour défier les grands, pour défier tout le monde physiquement. Donc, mais forcément, dans le NBA moderne, ils vont se trouver face à face parce qu'on switch.
Bien sûr.
On switch beaucoup l'écran, donc voilà.
Mais justement, cette question-là que tu as posé, Rémi, moi, ça me faisait penser à, tu vois, à Shai sur Doncic. On va basculer sur la série suivante, Thunder Mavericks. Avant de parler de qui est votre favori, parce que ça reste quand même sur le papier très, très indécis, on a deux finalistes du MVP sur le terrain dans cette série, avec donc Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic. Et justement, pourquoi pas un Shai qui pourrait défendre sur certaines séquences sur Luka. Ça reste, c'est peut-être plus possible que pour Brunson avec Haliburton.
Ça risque d'arriver matériellement pour une raison toute simple, c'est qu'à Dallas, tu as deux armes incroyables, elles sont à l'arrière, et à OKC, tu as un défenseur incroyable à l'arrière, c'est Lou Dort. Il faut bien qu'il en choisisse un des deux, tu vois. Donc, je pense que la match-up logique, ce sera de le mettre au début sur Doncic, à mon avis, mais il y a forcément des séquences où Lou Dort va se retrouver sur Irving, où Lou Dort sera sur le banc, et oui, on va avoir ce duel chez contre Doncic. Alors après, c'est deux joueurs très différents. Doncic Shai, il est dans l'élégance, dans l'esthétique, les changements de rythme. Luka, il est dans le contrôle du tempo, plus lourd, mais tellement efficace dans ses déplacements dans l'espace. Je sais pas, je serais curieux, j'aimerais tellement voir ça aussi, voir ce face-à-face à un moment. Voir Luka, qui a pas si mal défendu que ça, je trouve, au dernier tour de play-off. Je l'ai connu plus catastrophique, en tout cas.
Il y a des séquences quand même où Harden il passait quand même sans trop se faire.
Il y a des images qui sont dures, c'est vrai, mais si tu regardes, alors bien sûr qu'on peut toujours isoler les séquences et Luka est pas un défenseur élite, ça on est tous d'accord, mais si tu regardes sur la durée d'un match, je l'ai trouvé pas scandaleux sur cette série, moi, en tout cas, Luka.
On sait qu'il a un QI basket extrêmement élevé. Dallas, aujourd'hui, joue pour quelque chose. Il est plus investi défensivement sur les positions d'aide, surtout. Ouais. Il descend, on voit qu'il est en train de regarder la balle. Donc, c'est vrai qu'il est beaucoup plus présent défensivement. Si moi, je suis le coach de OKC, je mets Dort sur Luka. Il faut qu'il le défie physiquement. Kyrie Irving qui joue à l'opposé du ballon souvent, plus dans l'un contre un défi. Luka, il faut le manager physiquement, parce qu'une fois qu'il rentre dans la peinture, avec ses bumps, avec ses épaules, avec son savoir-faire, il faut défendre très tôt contre Doncic. Et là, Dort, il peut le faire. Mais il y aura des changements, il y aura plein de choses. Pour moi, le rythme, il va être extrêmement, extrêmement important, parce que quand Dallas a des soucis, c'est souvent sur le repli défensif. Et on sait que OKC, que vous marquez ou vous ratez le shoot, il part. Et là, il cherche le premier shoot available. Et souvent, c'est assez rapide.
Ouais.
Et puis, il y a aussi Jalen Williams qui peut, sur les switches, finalement se retrouver quelquefois sur Luka Doncic. Et physiquement, il a peut-être un peu le coffre aussi pour essayer de le bousculer.
Alors, il a le coffre, c'est sûr. Est-ce qu'il a la mobilité latérale? Peut-être. Il bouge bien. T'as raison, Jalen Williams. Après, le truc, c'est qu'il va déjà être occupé, je pense, à l'intérieur. Parce que t'as Daniel Gafford, t'as PJ Washington. Alors, la bonne nouvelle pour OKC, c'est que t'auras pas de Maxi Kleber à Dallas. Donc, ça enlève une arme intéressante quand même. Mais OKC a pas une grande force physique à l'intérieur, dans le sens où avec Chet Holmgren en grand et en seul grand vraiment efficace, t'es un peu limité. Moi, je pense que Jalen Williams, quand même, il va se coltiner les babards à l'intérieur. C'est possible qu'il ait du Doncic par séquence, mais je le vois pas sur une séquence prolongée prendre Doncic. J'en serais surpris, en tout cas. Ouais.
Et ouais. Est-ce que du coup cette défense de OKC qui a limité les Pelicans à moins de 94 points de moyenne sur les 4 matchs du premier tour, est-ce qu'elle peut parvenir à verrouiller un peu cette attaque de Dallas? Ça sera compliqué, contrôler, pas verrouiller.
Stopper, c'est pas possible. Il y a trop de talent chez Kyrie Irving, il y a trop de talent chez Doncic pour dire on va les limiter à 10 points ou à 15 points. Ils vont marquer des points. Ce qu'il faut faire, c'est les fatiguer un peu. Et ce qui est, pour moi, qui est très impressionnant avec OKC, c'est leur activité. C'est vrai qu'ils ont Chet Holmgren pour défendre un petit peu le cercle, mais tout ce qui se passe au-dessus, ça va tellement vite, les rotations sont toujours faites, ils sont synchronisés, ils ont vraiment une équipe des joueurs qui couvre le dos de l'autre. Et ça, c'est impressionnant. C'était un peu la grande force de cette équipe, cette unité qui montre non seulement en attaque, parce que le ballon est partagé tout le temps, il le montre défensivement aussi. Donc là, ça va être une des clés. Et on parlait des problèmes de rotation chez les Knicks. Tous les matchs que moi j'ai fait de OKC, Daniel, il joue 9.
Oui, ils ont du monde.
C'est le contraire. Ouais.
Même
il y a
si ce n'est pas des grands minutes. Mais pour ça, ils gardent toujours cette fraîcheur défensive où ils dépensent beaucoup. Mais tous les joueurs savent, ils sont prêts à se consacrer à ça.
Il y a quand même un truc aussi, là j'y pense, qu'on parle d'OKC qui me frappe en tout cas sur ces playoffs, c'est que là, moi je suis incapable, Nico, de te donner un favori entre Dallas et OKC, vraiment.
La prochaine question.
Je suis incapable sincèrement de te donner, pour moi c'est du 50-50, je sais que ça devrait être avantage OKC puisqu'ils sont numéro 1, Dallas 5, mais la dynamique de Dallas fait aussi que, bref, je suis incapable de te donner un favori. Mais ceci étant, regarde aujourd'hui à l'Ouest, t'as 1-0 Minnesota, t'as OKC qui va se lancer théoriquement en tant que favori face à Dallas. On est potentiellement à 15 jours d'une finale de conf à l'Ouest, Minnesota-Dallas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que tous les... Bon, alors, LeBron est dehors, Steph Curry est dehors, Kevin Durant est dehors. Peut-être, il est mené 1-0, que le champion Nikola Jokic va sortir, j'en sais rien. Et on pourrait se retrouver dans 10 jours, 15 jours, dans une finale de conf à l'Ouest entre Minnesota mené par Anthony Edwards et OKC mené par Shai Gilgeous-Alexander. Vous vous rendez compte un peu le renouvellement qu'on est en train de vivre là?
Ouais, c'est le monde nouveau, le nouveau monde de la NBA.
Et c'est bien. Enfin, j'ai rien contre les anciens stars. Il
faut passer à autre chose, c'est bon.
Voilà. Non, c'est fresh. C'est vraiment bien de voir ces équipes-là qui ont grandi. On les a vus grandir parce qu'ils ne sont pas toujours été au top. Mais moi, je le donnerais légèrement. Je vais répondre à ta question.
Ah, c'est bien. Chris Ismou, lui.
Légèrement au KC ?
Au KC, légèrement. C'est logique. Parce qu'ils ont l'avantage du terrain. Parce que c'est. Voilà, je suis d'accord. C'est 50-50, mais cet avantage du terrain, cette dynamique qui possède au KC, de vouloir toujours franchir les étapes, je pense que ça va leur pousser très loin.
Il y a un truc qui pourrait être cool aussi, surtout dans les fins de match, les quatrièmes cartons, on espère que ça sera des matchs serrés, c'est que d'un côté entre Shai et de l'autre côté Kyrie Irving, il y a deux joueurs dans les derniers moments qui sont souvent décisifs. Alors Kyrie Irving, ça a été assez extraordinaire face aux Clippers, mais Shai cette saison aussi a prouvé que dans les quatrièmes cartons, il aimait avoir la balle et il savait mettre les paniers quand il le fallait. Ça peut être vraiment un truc excitant dans cette série.
Ouais, t'as des joueurs clutch de fin de série. Puis tu sais, Chris et moi, dans ces playoffs, il y a eu deux gros game winners, dont un buzzer beater, c'est Jamal Murray. Nous, on a décidé d'occulter ça avec Chris, puisque c'était face aux Lakers, donc ça n'a pas existé dans notre histoire à nous. Donc du coup, il n'y a pas eu de buzzer beater dans ces playoffs pour l'instant. Donc il y a toujours des petits moments d'histoire. Le plus évident auquel je pense là tout de suite, c'est Kawhi avec Toronto face à Joel Embiid et Philly. On se souvient tous de ce shoot incroyable là dans le corner qui rebondit 14 000 fois sur l'arceau avant de rentrer et qui élimine Philly. Sur une série comme ça, avec les mecs que t'as cités là, putain, qu'est-ce que j'aimerais voir ça. J'aimerais voir des fins de match serrées, j'aimerais voir Kyrie prendre les choses en main, j'aimerais voir Shai prendre les choses en main. Pourquoi pas Luka aussi nous mettre un gros buzzer beater, il en a le droit. Le potentiel, il est là, t'as raison.
Ouais, surtout qu'on a des joueurs un peu différents, c'est-à-dire que Shai, c'est toujours dans l'élégance. La finition, il rate jamais un double pas quand il arrive au cercle.
Il a un équilibre.
Tout ce qui est bien avec lui, c'est tout ce qui se passe avant. Pour qu'il arrive au cercle. Il n'y a rien de spectaculaire une fois qu'il arrive, il dépose. Que Kyrie Irving, il va vous sortir des trucs, mais impossibles. Et c'est ça qu'on veut voir. Parce que, on sait que quand le match est serré, quand il y a des enjeux, Kyrie Irving, il fait toujours un truc, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui-même. Qui dit je vais me mettre en pretzel, je vais faire un double pompe, je vais sortir un gros truc, un shoot à 0,2 degrés en tombant, magnifique.
Celui sur PJ Tucker, il était pas mal et je sais pas si vous l'avez vu, mais et regardez la réaction de Daniel Gafford sur le shoot de Kyrie Irving. Il y a un gros plan sur sa tête, un moment où en fait il vit l'action et il en sourit avant même que Kyrie ait pris le shoot.
Ouais.
Et c'est assez extraordinaire. On passe à la dernière série, Boston Cleveland. Cleveland qui a gagné hier soir le match 7 face à Orlando. Ça a failli très mal se passer quand même pour les Cavs en première mi-temps, avant le réveil de Donovan Mitchell et de tout Cleveland finalement. Question très simple pour commencer avec toi, Rémi. Est-ce que les Cavs ont une chance dans cette série face à Boston? Plusieurs éléments à prendre en compte. Bon, j'en parlerai après, mais l'absence de Porzingis forcément va et peut peser beaucoup.
Alors, c'est à prendre en compte. De l'autre côté, est-ce qu'on va récupérer Jarrett Allen? On espère que oui pour Cleveland, mais il n'y a pas de garantie aujourd'hui. Je vois pas dans quel univers Cleveland pourrait passer face à cette équipe de Boston. Ils sont usés physiquement, ils viennent de disputer 7 matchs. Ils ont une rotation très courte à Cleveland aussi, alors le retour de Jarrett Allen ferait du bien, mais eux aussi, Bickerstaff a fait le choix de ne pas faire jouer plein de mecs, sans qu'on comprenne trop pourquoi. Et puis Boston est régnant dans ses playoffs. Aujourd'hui, quand je vois le niveau de talent de cette équipe, l'intensité à tous les postes qu'ils ont, même sans Kristaps Porzingis, je ne vois pas, sans blessure d'un joueur majeur de plus à Boston, comment Cleveland pourrait faire mieux qu'aller prendre un match à la maison face à Boston.
Non, il y a beaucoup de marge en fait pour Boston dans cette série, même sans Porzingis en fait.
Il y a deux possibilités de chance pour Cleveland. Comment on dit slim and none?
Proche de rien.
Voilà. Non, je pense que Cleveland n'a pas les atouts. Surtout, oui, comme on dit, Bickerstaff, il joue réduit. Il n'y a pas Jared Allen. Il y a un autre joueur qui n'est pas là aussi, qui était très important pour les Cavs, c'est Wade. Voilà, qui était un très bon défenseur, qui est capable d'apporter en attaque aussi. Boston, ils vont être reposés, ils vont être prêts. Cleveland, c'est un peu réduit. On a vu que si Donovan Mitchell ne se surpasse pas, ils ont beaucoup de mal en attaque à trouver des solutions. Orlando a craqué un peu. Ben, on a vu toutes les difficultés de Cleveland dans ce premier mi-temps. C'était horrible. C'est le basket.
Ah, c'était moche, hein, ce dimanche soir, là. Wow.
Voilà. Et puis, donc, le deuxième mi-temps, Mitchell prend un peu les choses en main. Il joue ses 1 contre 1. Bon, Strouss, il en met quelques shoots. Et là, ils ont profité de la faiblesse, la jeunesse. Limite en attaque de Orlando pour passer.
Mais... Après, le truc, c'est que j'ai l'impression, en plus, que pour rien arranger pour Cleveland, que la match-up est plutôt favorable à Boston. C'est-à-dire que les armes aujourd'hui de Cleveland, c'est sur les armes offensives de Cleveland, c'est sur les postes arrière, bien sûr, Donovan Mitchell. Et on l'a vu en fin de match, même si ça a été dur avant Darius Garland, qui est censé émerger à un moment ou à un autre. Bah, t'es Boston, t'as deux défenseurs élites sur ces postes-là, que sont Jrue Holiday et Derrick White. Bah voilà, les match-up, elles sont évidentes. Alors, je te dis pas qu'ils vont arrêter Donovan Mitchell, hein. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour Shea et compagnie. Mais pour le limiter, c'est quand même pas mal d'avoir Jrue Holiday et Derrick White. Donc, cette match-up, elle est terrible pour Cleveland. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir.
Ok, donc pas de surprise, a priori, Boston, a priori, tranquillement.
Après, si, le surprise, ce sera s'ils gagnent deux matchs.
Ouais, deux matchs.
Après, Nico, non, si tu veux,
ça reste
du basket.
Papier, ça paraît impossible quand même.
Si Boston passe au travers complet sur un des deux premiers matchs, comme ils avaient fait face à Miami là, au premier tour, sur un match, bah pourquoi pas. Allez, Cleveland en prend un des deux sur les deux premiers, si tu mets une petite étincelle et tu vois le retour à la maison. Voilà, un scénario qui pourrait pimenter un peu le truc. Mais la réalité, c'est que oui, il y a beaucoup, beaucoup de marge pour Boston aujourd'hui.
Ok, ça marche. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour du coup des quatre séries. Quelque chose à ajouter sur un joueur, une équipe, un match.
Non, on a hâte tout simplement que ça avance, hein, parce qu'on a des séries vraiment, que ça soit OKC Dallas, New York Indiana, toutes ces séries là, elles sont magnifiques.
Les deux séries de l'Ouest, moi ça me hype.
Moi, Nico, tu me demandes un truc, la prise de pouvoir de la ligue en otage d'un coup par Anthony Edwards, quoi. Je veux dire, si là c'est parti.
On en a parlé déjà cette saison plusieurs fois. Anthony Edwards, le nouveau visage, etc.
Mais là, on est en plein dedans.
Là, ça y est, on y est.
Imaginez
plus vite que prévu, encore plus vite que prévu.
Bah, bien sûr, imaginez une seule seconde que Minnesota, et c'est pas totalement impensable aujourd'hui, aille en finale NBA. Le buzz que ça va être. On va en parler, en entendre parler tous les jours. Le nouveau Michael Jordan, le nouveau Dwayne Wade, le nouveau ce que vous voulez. Ça pourrait être terrible, mais c'est fantastique. C'est un mec qui a un smile incroyable, qu'on adore voir jouer, qui est ultra athlétique en étant un basketteur de génie. Wow, franchement, fantastique. Moi, j'adore ce mec-là. Son émergence, elle nous régale tous.
Je crois qu'il y a un truc qui différencie Anthony Edwards de plein d'autres joueurs, c'est qu'il a, je sais pas, l'autre jour, on parlait de Devin Booker dans le podcast. Je trouve qu'il y a une rage de vaincre sur le visage. Enfin, Anthony Edwards, c'est un compétiteur.
Il s'amuse, mais en même temps,
il est pas là. Ouais, mais il est pas là non plus trop
pour
plaisanter face aux adversaires, quoi.
Il a
ce côté tueur, quoi, je trouve.
Bien sûr. Et il a compris que le basket, ça restait avant tout un jeu. Il est dans le défi pour ça. Quand on est gamin, c'est ça. On va faire un contrat en playground. C'est le jeu. Tu veux battre le mec en face parce que c'est le jeu, tu vois. Et lui, il est là-dedans. Nous, on avait eu la chance, son année rookie, juste avant le Covid en 2020, à Chicago All-Star Weekend. Il était au Rookie Game, là, au Rising Star. Et la NBA nous l'avait filé en interview. Je l'avais eu en interview avec Ronan chez Otal. C'était génial. On avait passé un super moment. Il était arrivé, je me souviens, c'était un matin avant l'entraînement. Il était 9h30 du matin. Je pense qu'il avait été en soirée jusqu'à 4h du matin avant, comme tous les gamins au All-Star Game. Et il était arrivé en pyjama. Je te jure que c'est vrai. Il avait un bas de pyjama incroyable. On s'était regardé et tout. Et il était marrant. Et je lui avais dit des trucs. Je lui ai dit, bon, j'ai lu une interview où tu disais que tu voulais être MVP. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il m'a dit, bah ouais. Bah ouais, je vais être MVP, ouais. Tu sais, j'étais là, j'étais un peu sur le cul. Je dis, mais attends, mais t'as, je suis plus 20 ans, t'es rookie, tu me dis que tu vas être MVP. Il dit, bah ouais. Et puis il se marrait, tu vois. Et c'est le mec, en fait. Il est. Tout est frais avec lui, tout est simple, en fait, quoi. C'est
il
cool.
Il s'est transformé, mais complètement. Et je crois que lui, il a compris la différence entre s'amuser et être compétitif pour gagner. Il sait le faire. Cette espèce de on-off. Il veut garder cette sourire. Il veut. Plaisanter un peu. À l'All-Star Game, il nous a tous fait son histoire avec la main gauche. On a dit, mais arrête. Depuis là, moi, je le trouve extrêmement sérieux. Je le trouve vraiment capable de changer le cours d'un match. Donc, non, pour moi, c'est le nouvel visage et c'est bien qu'il ait un sourire.
Il y a une époque quand il était drafté où on se demandait s'il aimait vraiment assez le basket parce qu'à la base, lui, son sport, c'est le foutuesse. Et il en parlait encore, je crois, cette saison, qui est potentiellement, après sa carrière, où il voulait arrêter, être champion, puis partir en NFL
quand
et jouer
à il est dans le jeu, ce mec-là. Tu vois, les défis, les challenges, ça le fait marrer, il attaque la vie avec un smile et ça, c'est fantastique. Alors que c'est la star, je vous dis, allez, peut-être que lui et Wemby seront la génération d'après en NBA, tu vois.
Oui, de toute façon, tous les grands joueurs comme ça, c'est les joueurs. Quand tu vois Michael Jordan jouer sur le lancement de cure-dent, qui peut approcher le mur, il voulait gagner, il pariait de l'argent. Et je crois qu'Anthony Edwards, c'est comme ça. La vie, c'est un jeu. Il maîtrise le basket, mais tout le reste aussi, il veut gagner.
Merci à tous les deux pour votre disponibilité. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous, notez sur les applications de streaming, les plateformes Apple, Podcast, Spotify, etc. Ouais. Bah oui, ça nous aide et puis ça nous permet d'être encore plus écoutés ensuite. Merci et bonne semaine à tout le monde. Ciao.
Okay.
Salut, c'est Fred Testo, bienvenue dans le débrief réalisé avec Santé publique France, où on vous dit tout sur les dangers des paris sportifs. J'ai autour de moi Mohamed Bouafsi, journaliste, et le professeur Laurent Carilla, addictologue. On va écouter tout de suite le témoignage de Chloé, qui souffre de l'addiction de son copain.
Il jouait déjà, en fait, quand je l'ai rencontré. Il a commencé à avoir des soucis financiers. Je lui ai prêté pas mal d'argent, et il ne peut plus du tout me rembourser. Il a changé auprès de tout le monde.
Mohamed Bouafsi, votre analyse ?
Il y a des milliers de Chloé en France. Elles sont confrontées à ce que vivent beaucoup de conjoints, de parieurs, addicts aux paris sportifs.
Professeur, quels sont les risques ?
On peut avoir des conséquences financières avec l'endettement, du surendettement, on peut avoir l'isolement social, on peut avoir de la dépression, des angoisses, des tentatives de suicide, des troubles du sommeil. Et il y a aussi des conséquences collatérales, donc sur l'entourage, qui sont nettes, hein, les amis, la famille. Et donc là, Chloé est complètement impactée, c'est un exemple typique.
Décidément, parier, c'est pas rien. Si vous avez des questions, rendez-vous sur le site joueurinfoservice.fr.
Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.